Bienvenue toujours en direct sur l'antenne de Graphite. C'est Jean-Noël qui prend la suite d'Enrique. Alors Enrique, lui, il a un petit jingle de Tony Carrera, c'est ça, mais c'est classe. Donc Thomas Pesquet, si tu m'écoutes, où que tu sois, envoie-moi un petit jingle pour dire qu'on peut aussi écouter Biotine sur l'antenne de Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. Nous parlons de l'actualité scientifique également le mardi matin pour la rediffusion entre 10 et 11h. Pendant une heure, nous allons parler de l'actualité scientifique. Nous allons nous arrêter notamment sur le changement d'heure cette nuit. Je redoute ce changement d'heure parce que les nuits sont courtes en ce moment et elles seront encore plus courtes la nuit prochaine. Et il y a des études scientifiques qui nous prouvent que finalement ce changement d'heure est plutôt néfaste pour notre santé. On verra ça. Et puis on fera un grand point dans cette émission sur le programme des candidats à l'élection présidentielle, notamment en termes d'énergie. Je vous le dis souvent dans cette émission, l'énergie, c'est l'un des enjeux vraiment importants du monde, au sens large. Et finalement, on a un peu l'impression que ce sujet n'est pas nécessairement débattu, ou en tout cas de façon peut-être anecdotique. Alors on fera un point dans cette émission pour voir un petit peu quels sont les projets, les orientations politiques des candidats à l'élection présidentielle. Voilà, ce seront un petit peu les deux sujets importants que nous allons voir dans cette émission. Vous écoutez Graphite sur le 94.9 sur la bande FM, graphite.net pour ceux qui nous écoutent en direct ou en différé, bien évidemment en récupérant les podcasts. Je m'appelle Jean-Noël, je suis en direct aujourd'hui. Il fait beau sur Compiègne, il y a un magnifique soleil, on est enfermé dans le studio. Et si vous souhaitez, vous pouvez, je l'espère, d'ailleurs je vais vérifier si la tablette fonctionne. Non, donc c'est pas la peine que je vous dise de nous envoyer des SMS, quoique essayez au 06 95 065 026 06 95 065 026. Nous sommes donc aujourd'hui le 26 mars. Le 26 mars, c'est effrayant, je sais pas. Je trouve que ça passe à une vitesse, c'est vraiment, ça devient compliqué, je trouve. 26 mars, en 1885, George Eastman fabrique la première pellicule commerciale de cinéma en 1885. La première pellicule, c'est quand même assez intéressant d'avoir des idées un petit peu de date. En 1899, donc nous sommes toujours au 19e siècle, l'archéologue allemand Robert Codevey découvre les murailles de l'antique ville de Babylone. Donc c'était à la fin du 19e siècle. Et enfin, en 1953, toujours un 26 mars, c'est le premier vaccin contre la poliomyélite qui a été mis au point aux États-Unis par le docteur Jonas Salk en 53. Naissance le 26 mars 1905 à Vienne de Viktor Frankl. C'était un professeur autrichien de neurologie et de psychiatrie. Il est le créateur d'une nouvelle thérapie qu'il va baptiser la logothérapie qui prend en compte en fait le besoin de sens et la dimension spirituelle de la personne. Il a un parcours assez intéressant, cet homme, parce que dès l'âge de 15 ans, il correspond directement avec Sigmund Freud. Oui, à 15 ans, effectivement, c'est totalement habituel d'écrire à Freud. Et en 1921, il donne, donc en 21, il avait 16 ans, il donne sa première conférence sur le thème à propos du sens de la vie. C'est quand même assez extraordinaire. Il devient un membre actif des jeunes travailleurs socialistes. Il est donc né le 26 mars 1905. Il a vécu quand même assez vieux, ce qu'il est mort en 1997, il avait 92 ans. Il est né à Vienne, il est mort à Vienne, il est resté à Vienne en clair, mais en tout cas, il a un parcours assez intéressant. Décès le 26 mars 1793 de John Mudge, médecin britannique, et il a fabriqué des miroirs de télescope. Et un autre décès le 26 mars 1974, donc c'est un petit peu plus récent, d'Edward Condon, physicien nucléaire américain, pionnier de la mécanique quantique. Il participe au développement du radar et des armes nucléaires pendant la Seconde Guerre mondiale. Edward Condon, mort un 26 mars 1976. Voilà pour l'éphéméride. Un décès qu'on a appris cette semaine, il y a quelques jours, je crois que c'est jeudi, il me semble, le décès de Stephen Wheelwright. C'est l'inventeur du GIF. Il est mort à l'âge de 74 ans des suites du Covid-19. Alors ça, c'est pareil, le Covid-19, on n'en entend plus parler du tout, parce qu'il n'y a plus de Covid-19 apparemment. Eh bien, il y a quand même toujours des décès. Et ça veut bien dire aussi qu'il y a quand même toujours quelque chose qui se passe dans ce domaine-là. Ne croyez pas toujours ce qui fait la une de l'actualité. Savoir que c'est, faut prendre toujours du recul avec tout ça. Stephen Wheelwright est donc mort à l'âge de 74 ans et donc l'inventeur de ce célèbre format animé, le GIF sur Internet. Il a conçu ce format de mini-vidéo en boucle pour une autre raison que celle que l'on connaît aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on aime bien envoyer des gifs comme ça pour agrémenter certains de nos messages. Lui, il cherchait un moyen d'envoyer des images en couleur haute définition sans perdre la qualité, parce qu'à l'époque, les bandes passantes étaient beaucoup plus lentes qu'aujourd'hui. Donc, il fallait essayer de trouver des moyens pour pouvoir envoyer des images de haute qualité. Et pour lui, du coup, ça a été ce format vidéo assez spécifique, le format GIF. Le premier exemple de GIF qui existait, c'était une photo d'un avion rouge. Et donc, ça a été le premier GIF créé. Et en 2013, il avait été interviewé, Stephen Wilhite, par le New York Times, qui lui demande, mais alors c'est quoi pour vous le meilleur GIF? C'est toujours une question de journaliste, ça. C'est quoi vous le préférez? Et en fait, il a expliqué que son animation préférée, c'était celle d'un bébé qui était en train de danser en tournant sur lui-même. Et cette image, vous l'avez vue en fait depuis 2-3 jours pour rendre hommage à Stephen Wilhite, décédé à 74 ans des suites du Covid et donc l'inventeur du GIF. 12h08 aujourd'hui, alors demain, donc si j'ai bien compris, demain on avance d'une heure, donc il sera 13h08, et un petit peu, c'est un peu récurrent quoi, ça fait même plus de 40 ans que ça existe ce changement d'heure, et on se pose un petit peu la question de savoir s'il y a des effets sur notre horloge biologique et s'il y a des conséquences non négligeables sur notre santé. La réponse semble être oui, parce que la littérature scientifique montre que le changement d'heure a bel et bien des effets physiologiques et sanitaires. Il impacte donc notre horloge biologique interne et peut induire des effets néfastes sur notre santé. Troubles du sommeil, troubles de la vigilance, des accidents du travail, des accidents de la route, des dépressions, des infarctus du myocarde, des accidents vasculaires, cérébraux, n'en jetez plus, la coupe est pleine. L'adaptation de l'organisme à ce décalage horaire que nous lui imposons va varier d'un individu à l'autre et ça peut durer de quelques jours à plusieurs mois. Alors quelques jours, c'est plutôt les personnes qu'on va appeler les chronotypes matinaux. En fait, c'est ceux qui ont tendance à être plus efficaces le matin, on en connaît tous, et pour eux, l'adaptation va durer quelques jours. Et ça peut être beaucoup plus long pour ceux qu'on va appeler les chronotypes tardifs, c'est-à-dire les personnes qui ont tendance à être plus efficaces plutôt le soir. Et donc, dans le contexte de ce changement d'heure qui va donc avoir lieu la nuit prochaine, les petits-enfants, les personnes âgées ont aussi plus de risques de ressentir des effets négatifs. Les adolescents également, les travailleurs de nuit et tous ceux qui souffrent d'un trouble du sommeil et qui auront donc des difficultés pour pouvoir s'adapter à ce nouvel horaire. Alors, selon l'avis des spécialistes, notamment le neurobiologiste et chercheur de l'INSERM Claude Gonfrier, il est le président de la Société française de chronobiologie, et il explique que le passage à l'heure d'été serait plus compliqué à gérer pour l'organisme que le passage à l'heure d'hiver, compte tenu d'un côté de la perte d'une heure de sommeil, parce que demain, nous allons perdre une heure de sommeil, et du coup, on va aussi avancer d'une heure notre horloge biologique et donc il y aurait des effets quand même qui seraient plus importants que le passage à l'heure d'hiver. Et en moyenne, nos organismes ont tendance à accumuler un retard de 10 minutes sur leur cycle de 24 heures. Avec ce changement d'heure, du coup, on va demander d'avancer le rythme d'une heure. En fait, ça va accentuer les efforts qui sont faits par notre corps, qui lui va essayer de tenter de pouvoir rattraper ce retard. Donc on lui enfonce un petit peu plus le clou quelque part, dans le sens où on va lui imposer un retard qu'il va être encore obligé de pouvoir rattraper en fournissant des efforts supplémentaires. Et ce changement serait donc particulièrement mal vécu par ceux qu'on appelle les chronotypes plutôt tardifs, donc ceux qui sont plutôt efficaces le soir. Et on constate que, d'une façon générale, il y a un manque général de sommeil de la population française. Il y a eu des études qui ont été menées et on estime, alors la fourchette est assez large parce que ça va de 30 à 90 minutes, donc d'une demi-heure à une heure et demie, bien évidemment, ça reste assez large parce qu'on essaye de faire une moyenne d'une heure à peu près, mais en tout cas, le constat est quand même assez alarmant. Il y a un manque de sommeil de façon générale par la population française. Et donc, on rajoute ce problème d'heures en moins qu'on va avoir, ça ne va pas arranger les choses, bien évidemment. La suppression du changement d'heure, elle a été votée en 2019. Les États membres de l'Union européenne doivent désormais choisir quelle heure définitive doit être adopté. Ça met du temps quand même, hein. Pour l'instant, ils peinent quand même à prendre une décision. Mais en tout cas, il va falloir choisir. Heure d'hiver, heure d'été. Le choix, il est là, il est simple. Et la grande majorité de la communauté scientifique recommande que le choix se porte sur le maintien de l'heure d'hiver, donc celle que l'on vit encore aujourd'hui. Parce que si on venait à maintenir l'heure d'été toute l'année, le réveil en hiver, le coucher en été serait plus difficile, c'est-à-dire que par exemple, vers le 21 décembre, c'est le jour le plus court de l'année, le soleil se lèverait à 9h41. C'est quand même assez effrayant, quelque part on ne l'a jamais vécu ça, de voir un soleil se lever à 9h41, si ça serait l'heure d'été qui serait maintenue bien évidemment. Et de même, le lever du soleil il serait donc très tardif et ça aurait un effet plutôt néfaste sur la santé, parce que du coup on aurait une baisse d'exposition à la lumière. Notre corps a besoin d'une dose importante de lumière pour pouvoir débuter sa journée et de pouvoir synchroniser l'horloge biologique. Si le soleil se lève à 10h moins le quart du matin, ça va être assez compliqué de pouvoir récupérer cette lumière naturelle du soleil, et donc on sera un petit peu privé de cette lumière, et ça aurait donc un impact assez important sur une période assez à peu près entre novembre et janvier-février, on aurait quand même des complications au niveau du lever du soleil. En revanche, si on maintient l'heure d'hiver toute l'année et qu'on décide collectivement de dire on maintient l'heure d'hiver toute l'année, eh bien le coucher du soleil aurait lieu en moyenne 4 heures plus tard en été qu'en hiver. C'est quand même aussi assez bizarre, parce que quelque part on serait totalement en décalage. Ça induirait un coucher plus précoce et donc ça induirait, comme il y aura un coucher du soleil plus précoce, des nuits plus longues entre guillemets, et donc du coup on considère qu'il y aurait un sommeil plus long qui serait bénéfique pour la santé, bien sûr, en l'occurrence par rapport à ce qui a été évoqué tout à l'heure. Donc la communauté scientifique oriente plutôt son choix sur le maintien de l'heure d'hiver. Ok, bah écoutez, on verra ce qu'il en sera. Je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est, d'ailleurs, sur la décision qui doit être prise par l'Union européenne, étant donné qu'on a décidé qu'il fallait arrêter les changements d'heure, lequel on maintient, on n'en sait rien, mais en tout cas, la nuit prochaine, eh bien, avancer, hein, c'est ça. J'espère que je ne me trompe pas. On avance d'une heure. Je suis perdu à force. On ne sait plus ce qu'il faut faire. On avance d'une heure et on dort une heure de moins, c'est ça. Eh bien, profitez un petit peu de votre journée du soleil et d'une nuit qui sera un petit peu plus courte. Vous écoutez Graphite tous les samedis entre 12h et 13h. C'est l'émission Biotine. Pour parler de l'actualité scientifique, on va faire un dossier assez important tout à l'heure pour parler de l'élection présidentielle et du choix au niveau des énergies pour la France de demain, juste après. Barcella sur l'antenne de Graphite. À tout de suite. Ça devrait le faire. Non, c'est Fabrice Mauss, pardon. Je ne sais pas pourquoi. C'est le samedi matin. J'ai une nuit courte, je crois que c'est ça.
À la recherche du bonheur et tout ce qui va avec, du nom, d'une humeur, d'un cavalier sans tête. Est-ce que tu crois qu'il nous voit ? J'ai les pieds qui s'enfoncent toujours dans la panade, les jambes qui tremblent, mon cœur bat la chamade. Ralentis, ralentis. Ralentis, c'est la vie. La la la. La la la. La la la. C'est l'histoire d'un message gravé sur ma peau, comme un tatouage qui vous laisse encore un mot. Encore un mot. J'en ai dansé des valses, des slow et des tangos, des quarts d'heure américains jusqu'au premier métro. La nuit, ma belle amie, c'est la vie. La la la, la la la, la la la, c'est la vie. La la la, la la la, la la la. J'en ai vu des danseuses jouer les Marilyn, vous chanter une berceuse et finir en déprime. Deux pieds sur un fil. Moi j'en ai lu des poèmes, des fables et des serments. Des combien je t'aime et puis combien tu prends. Tout se vend, tout se vend. Oui, tout se vend, c'est la vie. La la la.
de fourmis, des lumières qu'on prend pour un ovni. C'est juste un oubli. Pour le meilleur, pour le pire, juré pour la vie. Y'a moins de risques à se dire oui pour la nuit. Et moi, j'ai dit oui. Oui, 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 c'est la vie. La la la. La la la. La la la, c'est la vie. La la la. La la la. La la la, c'est la vie. C'est la vie.
C'est la vie, c'était Fabrice Mauss sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h et le mardi pour la rediffusion entre 10h et 11h sur graphite.net et sur le 94.9. Pour ceux qui nous écoutent sur la bande FM, nous faisons un point dans cette émission Biotine d'actualité scientifique. On va parler aussi d'actualité un peu politique pour se demander un petit peu au niveau des différents programmes des candidats à l'élection présidentielle, ce qu'il en est en termes de choix d'un point de vue énergétique. Futura Science, qui est un site internet vraiment intéressant et que je vous recommande pour avoir une, comment dire, être informé régulièrement sur l'actualité scientifique et qui est une source assez intéressante que j'utilise fréquemment, pour cette émission. Futura Science a fait un dossier justement permettant de regarder un petit peu les programmes des différents candidats et je vous propose un petit peu d'étudier avec vous ce dossier de Futura, parlant donc de la sélection des énergies sur lesquelles la France de demain pourra compter. Et on sait très bien que cette sélection n'est pas un choix facile parce que la question est complexe. C'est peut-être aussi ça qui est intéressant dans ce sujet-là. Et jusqu'à récemment, on pensait à peu près tous que le choix pourrait être guidé par la seule volonté ou non de limiter le réchauffement climatique. Et donc, du coup, l'idée, c'était de réduire plus ou moins de façon drastique les consommations d'énergie fossile. Les énergies fossiles, ce sont quoi ? Le pétrole, le gaz, le charbon. Et donc, du coup, on considère que si on réduit les consommations de ces énergies fossiles, on arrive à répondre à cette problématique du réchauffement climatique. Ok, ça c'est toujours le cas, bien évidemment. Et ça a été prouvé, bien évidemment. Enfin, je veux dire, dans cette émission, on en parle très souvent de l'impact de ces énergies fossiles sur le réchauffement climatique. Sauf que, très récemment, on a un élément qui est quand même assez important, qui est l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Et en fait, ça apporte un nouveau sujet au niveau des énergies. C'est une autre problématique qui est tout aussi importante. C'est celle de la dépendance énergétique. Et ça rajoute un peu une inconnue à cette équation qu'on n'avait pas encore pour l'instant totalement maîtrisée ou en tout cas anticipée. Et dans ce contexte et dans cette question de la dépendance énergétique, il y a encore un coupable qui est tout désigné, ce sont là encore les énergies fossiles qui à la fois donc réchauffent notre planète et du coup on se rend compte de plus en plus que ces énergies fossiles ont un impact sur le financement de cette guerre qui a lieu en ce moment. Alors, comment se passer de celles sur lesquelles nous avons compté depuis plusieurs décennies ? Eh bien, les experts estiment en général que nous aurons besoin pour cela de toutes les sources d'énergie bas carbone et de toutes. Et donc, du coup, on va réaliser ce qu'on appelle un mixte énergétique le plus diversifié possible pour faire face aux incertitudes qui font un petit peu le monde d'aujourd'hui, le monde de demain, bien sûr. Le mix énergétique, c'est quoi ? C'est de décider la répartition de l'ensemble des énergies pour la production notamment de l'électricité. En France, on le sait, c'est en très grande majorité, aux environs de 75% à peu près, voire 80%, l'énergie nucléaire qui est donc dans notre mix énergétique la part la plus importante. Vous verrez dans d'autres pays, que le mix énergétique est totalement différent. Par exemple, l'Allemagne qui a décidé de sortir du nucléaire. Donc il faut remplacer le nucléaire par d'autres énergies. Et donc, du coup, cette répartition au niveau des différentes énergies est donc totalement différente par rapport à celle de la France. Et donc, chaque pays décide de son mix énergétique, et là on est dans une décision politique bien évidemment. Donc ça c'est le contexte de départ, et voilà, comment essayer de définir le mix énergétique du futur pour notre France, pour pouvoir répondre à cette problématique du réchauffement climatique et pour pouvoir également répondre à cette autre problématique qui surgit d'un seul coup, qui est celle de notre dépendance énergétique, bien évidemment. Et Futura a donc essayé de voir un petit peu ce qu'envisage les 12 candidats à l'élection présidentielle pour relever ce double défi, bien évidemment. Alors, on va prendre un constat de départ qui est celui de l'Agence internationale de l'énergie qui a fait, en fin de l'année dernière, fin 2011, une analyse de la politique énergétique de différents pays, dont celle de la France. Et donc l'Agence internationale de l'énergie explique que les émissions de dioxyde de carbone de la France sont d'une façon générale très basse par rapport aux autres pays, et parmi les plus faibles par habitant de toutes les économies mondiales, en tout cas des pays développés, et tout ça explique, j'ai un chat dans la gorge, ça va pas être simple, excusez-moi, je vais y arriver, en tout cas l'Agence internationale de l'énergie explique que parce que la France a des émissions plutôt faibles par rapport aux autres pays de CO2, ils font le lien en expliquant que c'est parce qu'il y a quand même une énergie nucléaire assez importante et une énergie hydraulique également, les barrages hydrauliques, qui permettent justement de produire l'électricité sans ou avec très peu d'émissions de CO2. Ça, c'est le constat qui est fait. Mais du coup, il va falloir quand même parler un petit peu d'avenir et de voir ce qu'il en est de ce que l'on décide pour la suite, bien évidemment. Et donc, du coup, on est en train de se demander si on va orienter le mix énergétique sur le 100% renouvelable ou non. Le 100% renouvelable, ça va être l'éolien, ça va être le solaire, ça va être l'hydraulique, ça va être aussi la biomasse. Alors, parmi les candidats à l'élection présidentielle, il y en a qui vont miser sur le 100% renouvelable et qui l'expliquent très bien. Philippe Poutou qui l'envisage pour 2050. Jean-Luc Mélenchon également, Yannick Jadot ensuite, et Anne Hidalgo qui mise aussi sur le 100% renouvelable, qui ne donne pas d'échéance et qui explique que ça va être aussi pour le plus rapidement possible pour pouvoir atteindre cet objectif. Et il y a quand même une autre étude qui explique que le remplacement des réacteurs nucléaires par uniquement les seules énergies renouvelables, et donc à la fois l'éolien et à la fois le solaire, eh bien ça permettra d'avoir un 100% renouvelable en 2060. Donc déjà l'échéance, elle va être beaucoup plus loin que celle qui avait déjà été annoncée par les candidats. Mais on est aussi dans une volonté politique de pouvoir peut-être avancer cette échéance, bien évidemment. Il y a d'autres candidats qui, eux, vont pas parler du 100% renouvelable, mais qui vont parler plutôt du 100% décarboné, c'est-à-dire avec une émission quasi zéro du CO2. Et parmi ces candidats, ils vont expliquer qu'on va enlever toutes ces énergies fossiles de l'équation, donc on enlève le pétrole, le gaz et le charbon. C'est Fabien Roussel, par exemple, qui planifie ce 100% décarboné à l'horizon 2040-2050. Et également Emmanuel Macron, qui évoque une stratégie de neutralité carbone d'ici 2050, tout annonçant en parallèle un déploiement massif des énergies renouvelables. Alors il y a Nathalie Arthaud, elle, qui montre un peu sa différence dans cet aspect, parce qu'elle explique que mal maîtrisées, toutes les énergies peuvent présenter une menace. Et en maîtriser non seulement la technologie, mais aussi les conditions de mise en œuvre, c'est impossible dans une économie où les décisions sont prises de façon totale ou partielle, en fonction du profit. C'est ce qu'elle explique sur son site de campagne, Nathalie Arthaud. Et même les énergies renouvelables ne trouvent pas grâce à ses yeux. Elle explique qu'elles sont surtout aujourd'hui une source inépuisable de profit. Ces énergies servent de prétexte à des subventions sans fin, une aubaine pour les fabricants et les installateurs. Donc Nathalie Arthaud appelle ainsi à mettre fin à ce système irresponsable vis-à-vis des ressources de la planète, comme il est vis-à-vis de l'humanité tout entière, la seule manière conséquente de se battre pour une société respectueuse de notre environnement. Alors, je me permettrai de dire que c'est peut-être un autre sujet, mais en tout cas, c'est ce qu'elle explique sur son site de campagne. La question du nucléaire, eh bien évidemment, c'est celle qui divise le plus. Parce que d'un point de vue de lutte contre le réchauffement climatique et d'un point de vue indépendance énergétique, eh bien, c'est assez compliqué de vouloir opposer énergie nucléaire d'un côté et énergie renouvelable de l'autre. Le vrai combat qui est celui de, que l'on doit mener contre les énergies fossiles, c'est plutôt ça qui va être mis en avant. Alors, pour l'instant, il y a un seul candidat qui souhaite sortir du nucléaire au plus vite, c'est Philippe Poutou. Et parmi ceux qui ne veulent plus du nucléaire, il y a aussi Jean-Luc Mélenchon qui accepte toutefois de prendre un peu plus de temps pour arrêter les centrales nucléaires existantes. Il y a ceux aussi qui veulent s'appuyer sur le nucléaire ou au moins qui en acceptent la présence pour passer au 100% renouvelable. Il y a Anne Hidalgo et Yannick Jadot. Et puis il y a ceux qui comptent notamment sur le nucléaire à plus long terme, et c'est la majorité des candidats à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, Éric Zemmour, Jean Lassalle, Fabien Roussel, Marine Le Pen, Nicolas Dupont-Aignan et Emmanuel Macron. Nathalie Arthaud, alors là, une fois, se démarque encore, parce qu'elle explique que, toujours sur son site internet qui explique son programme, c'est le capitalisme qui rend le nucléaire dangereux et poser le problème en termes de sortir et ne pas sortir du nucléaire, indépendamment des conditions sociales et économiques dans lesquelles nous vivons, est au mieux une impasse, au pire une diversion. Sur la question de l'éolien, eh bien, il y a un bilan qui a été fait au niveau français et qui explique que la croissance du parc au cours de l'année dernière n'a pas suffi à compenser la moindre disponibilité de l'énergie éolienne. En clair, les conditions de vent étaient défavorables et donc du coup, ça ne permettait pas de répondre à la demande. Et donc, ça met en lumière une véritable problématique de l'éolien. C'est ce qu'on appelle une énergie intermittente, c'est-à-dire qu'il faut du vent, mais pas trop, pour pouvoir produire de l'électricité avec les éoliennes. Alors, du coup, c'est des conditions que l'on ne maîtrise absolument pas, bien évidemment. L'ADEME, qui est l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, rappelle que la France détient le premier gisement européen pour l'éolien terrestre et le deuxième après la Grande-Bretagne, si on tient compte de l'éolien en mer. Et donc l'ADEME estime que l'énergie éolienne pourrait devenir la première source d'électricité en France en 2050. Sauf que cette énergie renouvelable, on sait, ça devient de plus en plus un débat dans la société et donc du coup, il y a des véritables oppositions. Il y en a des candidats qui s'opposent farouchement face à ces éoliennes. Nicolas Dupont-Aignan qui annonce zéro éolienne implantée en 5 ans. Et il compte d'ailleurs utiliser les aides et les incitations actuellement réservées aux éoliennes pour financer un grand plan d'isolation thermique des bâtiments. Il y a Éric Zemmour qui veut mettre fin à tous les projets d'éoliennes actuels et futurs sur Terre comme en mer, au nom de la défense de la beauté et de l'intégrité de notre patrimoine naturel. Et il y a Marine Le Pen qui souhaite non seulement arrêter les projets éoliens, mais aussi démanteler progressivement les parcs existants. Et elle compte rendre aux ménages, je cite, les 5 milliards de subventions versées notamment aux éoliennes. Donc il y a ceux qui sont contre, et puis il y en a qui sont un peu plus nuancés. Valérie Pécresse qui explique « Aucun projet éolien ne sera lancé sans l'accord des populations ». Et pareil pour Jean Lassalle qui promet de stopper l'éolien en interdisant les projets non validés par les habitants. Et puis ceux qui souhaitent intégrer pleinement l'éolien. Donc vous voyez qu'on est sur des choix politiques. Il y en a qui souhaitent vraiment impliquer l'éolien et lui donner une part beaucoup plus importante. Jean-Luc Mélenchon qui souhaite plus que doubler l'éolien pour arriver à environ 18 500 éoliennes sur Terre en 2050. Il y a Yannick Jadot qui annonce quant à lui qu'en plus des 7 parcs éoliens en mer à venir, eh bien, il y aura un déploiement de 3000 éoliennes terrestres supplémentaires avant 2027, donc avant la fin du quinquennat, qui seront implantées dans le respect des paysages, de la biodiversité et des habitants. Mais il y a aussi dans son programme l'augmentation de la puissance des parcs qui existent déjà. Puisque nous allons entrer dans la période de renouvellement possible, il faudra remplacer les éoliennes existantes par de nouvelles qui seront plus performantes. C'est-à-dire que comme il y en a qui existent déjà et qu'on doit les remplacer, autant les remplacer par des plus performantes, mais ne pas les démanteler. Et Emmanuel Macron annonce, lui, l'implantation de 50 parcs éoliens en mer d'ici 2050. En ce qui concerne justement l'éolien en mer, l'éolien offshore, c'est un véritable pari parce que la filière, elle peine pour l'heure à prendre réellement son envol. Et donc du coup, quelque chose qui était assez prometteur il y a quelques années, là, pose un petit peu plus de questions sur l'efficacité et la technologie, bien évidemment. Question du solaire photovoltaïque. Là aussi, c'est une source d'énergie renouvelable, mais on voit que en fait, c'est à peine 2,5% de la production d'électricité française. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui a un impact véritablement important, mais ça existe. Et là encore, eh bien, c'est lié au taux d'ensoleillement qui est en baisse en 2021 par rapport à 2020. Et donc là aussi, on s'est rendu compte quelque part que la production d'électricité par le solaire ne répondait pas nécessairement aux besoins qu'il avait fallu en 2021. Alors, quelles sont les mesures que les candidats à l'élection présidentielle comptent prendre ? Alors, Jean Lassalle souhaite lui développer la recherche fondamentale sur l'énergie photovoltaïque afin de vérifier sa viabilité, sa rentabilité, et donc développer l'énergie solaire avec pour objectif de créer des centrales solaires. Fabien Roussel, il ne distingue pas nécessairement l'énergie éolienne de l'énergie solaire. Pour lui, il faut, d'une façon générale, investir dans les énergies renouvelables et encourager la recherche à mettre au point des solutions technologiques qui répondent aux critères écologiques et sociaux en prenant en compte l'idée d'un coût faible de production et également les emplois qui y sont associés. Éric Zemmour, sans vouloir, comme l'éolien, arrêter de subventionner dans des proportions déraisonnables l'énergie solaire. Emmanuel Macron planifie d'ici 2050 la multiplication par 10 de notre puissance solaire. Et enfin, Yannick Jadot lui envisage d'exploiter le potentiel solaire photovoltaïque sans concurrence d'usage avec les sols agricoles et les espaces naturels. Et donc, du coup, on pourrait installer 340 km² de panneaux solaires sur les toitures des entrepôts, des grandes surfaces ou alors sur les parkings en créant des ombrières. Et donc, il y aurait largement de quoi faire pour pouvoir répondre à cet objectif, bien évidemment. Les autres sources d'énergie, pour finir, cet article est un peu long, j'en suis désolé, mais en tout cas, on voit très bien que c'est un sujet qui prête débat et qui est important et qui, du coup, il va falloir décider de ce que l'on veut pour notre avenir. Les autres sources d'énergie, il y a quelques décisions, en tout cas quelques orientations qui sont proposées par les candidats. Jean Lassalle qui appelle à développer l'énergie de la mer, donc la houle, l'écart thermique entre la surface et les grands fonds, et ainsi de suite. Et donc, du coup, comme il y a un atout précieux qui est notre façade maritime, ça peut être une piste assez intéressante. Fabien Roussel qui compte investir surtout dans l'hydraulique, qui était une énergie renouvelable pilotable. Valérie Pécresse qui évoque l'hydrogène et les biocarburants. Éric Zemmour qui parle aussi d'hydrogène, mais plutôt dans les transports en commun, dans l'industrie, dans le transport lourd. Il annonce, Éric Zemmour, voulant encourager toutes les technologies qui réduisent notre dépendance aux hydrocarbures et développer des alternatives crédibles et pérennes aux hydrocarbures, comme les piles à combustible, les batteries électriques, les biocarburants dans les transports. Jean-Luc Mélenchon compte encourager les bioénergies, donc celles qui, par exemple, le biogaz, la biomasse, c'est-à-dire qu'on va pouvoir traiter, par exemple, les déchets végétaux pour pouvoir soit créer du gaz, soit produire de l'électricité. Et donc, il souhaite encourager cette filière. Il prévoit de faire augmenter la production de bois énergie de 50% et d'avoir recours au biogaz également. Marine Le Pen annonce vouloir relancer la filière hydroélectrique et investir dans la filière hydrogène. Et enfin, Yannick Jadot explique que le sujet de la chaleur renouvelable, la géothermie, c'est-à-dire la chaleur de la terre, est un sujet capital. Et enfin, Emmanuel Macron, comme il l'avait déjà annoncé il y a quelques mois, compte investir pour devenir le leader de l'hydrogène vert. Donc voilà, il y a plein de pistes qui sont évoquées. Et donc, du coup, il va falloir aussi prendre en considération tous ces sujets, tous ces programmes, parce que l'équation n'est pas véritablement simple. Il ne faut pas se leurrer, il n'y a pas de bonne solution. Sinon, on la connaîtrait, tous les pays l'auraient choisi. Il y a plusieurs solutions. Laquelle choisir ? Eh bien, selon les convictions, selon les orientations politiques, selon les ressources que l'on a sur notre pays, selon la question donc de la dépendance énergétique, du réchauffement climatique. Tous ces sujets-là doivent être posés pour pouvoir essayer de définir un mix énergétique pour la suite. Là, vous avez eu dans cet article un petit peu ce qui a été proposé par les candidats à l'élection présidentielle. à vous aussi de réfléchir et de faire votre choix. Est-ce qu'on maintient le nucléaire? Est-ce qu'on le renforce? Est-ce qu'on le diminue? Si on le diminue, par quoi on le remplace? Est-ce qu'on le remplace par des énergies renouvelables? Si oui, lesquelles? Qu'est-ce que l'on met en place concrètement pour développer ces énergies renouvelables? La question de l'hydraulique qui est très peu abordée dans cet article, et certains candidats expliquent qu'ils souhaitent renforcer cette filière. Il ne faut pas se leurrer, l'énergie hydraulique, en clair, les barrages hydrauliques, on les a construits, il y a très peu de place qui reste sur notre pays pour pouvoir en construire de nouveaux. Donc du coup, on arrive quelque part à une saturation. Donc c'est peut-être pas non plus nécessairement une piste sérieuse qu'il va falloir approfondir. Bref, il y a tous ces sujets-là qu'il va falloir prendre en considération pour des échéances qui vont être des échéances très courtes. On parle essentiellement dans les programmes de 2050. Il ne faut pas se leurrer. C'est cette décennie-là qui s'ouvre, qui va nous donner les orientations et les stratégies qu'il va falloir mettre en place concrètement. Si on considère par exemple qu'il faut renforcer l'éolien, il va falloir décider où est-ce qu'on les met, il va falloir les construire, il va falloir améliorer la technologie également pour que ces éoliennes produisent plus d'électricité, ou en tout cas de façon une quantité plus importante, et donc il y a derrière toute une recherche qui doit être mise en place, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc du coup, il va falloir décider assez rapidement sur ces sujets-là. On en parle souvent dans cette émission, mais voilà, je voulais profiter de cet article qui est un peu long. Je suis d'accord, j'ai fait un tunnel, comme on en parle dans la radio, mais je voulais essayer d'aborder de façon la plus exhaustive possible ce sujet des énergies, et qui est, à mon avis, trop peu évoqué dans les débats, ou en tout cas dans cette campagne électorale. On fait une petite pause musicale, hein, ça va faire du bien à tout le monde. Et à moi en premier, on va écouter... Alors je vous avais promis... tu avais écouté M avec Madame Rêve. Rêvons tous ensemble. Vous écoutez Biotine sur l'antenne de Graphite.
Madame Rêve, t'atomiseur et deux cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de forme oblongue et de totem qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui le peint au ciel. On est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, on est loin. Des amours de loin.
Madame Rev, c'était M sur l'antenne de Graphite. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h pour vous tenir informé de l'actualité scientifique. On parle souvent d'espace dans cette émission. Et là, on va parler d'espace qui revient sur Terre. Ça fait 50 ans que cet échantillon de lune attendait son heure. Des échantillons lunaires qui avaient été ramenés sur Terre par les astronautes de la mission Apollo 17. Il était donc depuis 1972 isolé du monde extérieur par deux conteneurs sous vide. Il y avait un conteneur qui avait été fermé sur la Lune. Il y a un autre conteneur après le retour de l'échantillon qui a été fermé sur Terre. Et le mois dernier, des chercheurs de l'université de Washington ont enfin libéré cet échantillon de lune avec d'infinies précautions, bien évidemment. Ils ont utilisé un extracteur spécialement conçu à cet effet parce que, après l'avoir protégé de deux sacs en téflon, ils l'ont placé dans une enceinte régulée sous azote. Pourquoi tout ça ? Pour ne perdre aucune information, bien évidemment. Et du coup, les chercheurs ont imaginé un système qui est capable de capter chaque volume de gaz. Un volume de gaz qui serait probablement faible et donc qui pourrait s'échapper de cet échantillon. Et donc, du coup, on veut capter tout ce qui va s'échapper de cet échantillon. Et aussi un système qui serait capable de laisser d'autres gaz diffusés en dehors des roches lunaires qui seraient encore prisonnières et qui viendraient dans un second temps pour pouvoir les extraire, pour pouvoir les récupérer. Et l'objectif de tout ça, c'est de permettre à des laboratoires spécialisés qui sont répartis aux États-Unis ou en Europe de pouvoir analyser ces gaz piégés dans l'échantillon. L'oxygène, l'azote, bien évidemment, mais aussi ce qu'on appelle les gaz nobles, parce que ces gaz nobles renferment non seulement des informations sur la composition actuelle de la Lune, mais aussi sur la composition qui était celle au moment de la formation de la Lune. Donc du coup, on pourrait obtenir des informations très très précieuses. Les chercheurs espèrent tirer de cet échantillon en particulier des informations d'autant plus intéressantes et différentes de celles qui étaient déjà tirées d'un autre échantillon ramené sur Terre par la mission Apollo 17 qui avait été ouverte il y a quelques années déjà. Et du coup, cet échantillon avait été prélevé à une profondeur à laquelle la température ne monte jamais au-dessus de la température de congélation de l'eau, donc ça reste toujours en dessous de zéro. L'échantillon pourrait ainsi renfermer plus de composés volatiles que ceux qui avaient été prélevés sur la partie supérieure du sol lunaire. Donc du coup, là, on a creusé dans le sol de la Lune, on a récupéré un échantillon, on l'a enfermé pendant 50 ans, on l'a ouvert et on est en train d'analyser tout cela. Des résultats seront présentés à l'occasion de la conférence sur les sciences lunaires et planétaires qui va se tenir dans les prochains jours aux États-Unis. On en saura donc un peu plus sur ces composés de Lune. Je trouve ça fascinant. Je ne sais pas vous, mais voilà, des morceaux de Lune comme ça qu'on ramène sur Terre. Et on va pouvoir essayer d'avoir des informations vraiment intéressantes, bien sûr. Il n'y a pas besoin d'aller sur la Lune pour voir un petit peu la richesse du sol. Il y a un article assez intéressant qui avait été mis en ligne il y a quelques jours, je crois que c'est sur le site Science et Avenir, qui parle de l'Ukraine, parce qu'on est vraiment dans une actualité plutôt dramatique. Et cet article, je trouvais assez intéressant, parce que ça mettait en avant un autre trésor de l'Ukraine au niveau de son sol. Il y a des scientifiques qui alertent de plus en plus sur la dégradation continue de la qualité des sols et de leur appauvrissement en matières organiques. Eh bien, l'Ukraine est l'un des derniers endroits à bénéficier d'un sol extrêmement riche et fertile. Et ce sont ce qu'on appelle les fameux tchernozions. Alors, je ne sais pas du tout Je l'appelle très bien, je ne sais pas, tchernozion ou tchernozium, ça se termine avec un M. En fait, ça signifie terre noire. C'est une couleur caractéristique qui est liée à la présence d'une grande quantité d'humus qui peut aller jusqu'à 15%. Il faut savoir que pour les autres pays et pour les autres agriculteurs, par exemple en France, le pourcentage de matière organique des terres agricoles françaises, donc le pourcentage d'humus, ne dépasse pas 2%. En Ukraine, le minimum c'est 3 et ça va jusqu'à 15. Donc du coup, ça... ça peut être assez intéressant. La quantité d'humus dans le sol, c'est un gage de qualité, de fertilité. Et on comprend mieux du coup pourquoi l'Ukraine était qualifiée et est toujours qualifiée de grenier à blé, bien évidemment. Alors le tchernozium ukrainien se caractérise par une forte épaisseur de terre enrichie en matières organiques. 1 mètre en moyenne, mais parfois jusqu'à 6 mètres, donc c'est quand même des profondeurs assez importantes, alors que d'une façon générale sur les autres types de terres agricoles, c'est 20 cm seulement. Donc là, au moins, c'est minimum 1 mètre jusqu'à 6, ce qui est véritablement des proportions intéressantes. Le tchernozium représente également une grande richesse naturelle en minéraux, la potasse, le phosphore, et cette qualité unique permet aux agriculteurs de limiter justement les apports d'engrais chimiques, donc ça peut être intéressant. Et quand c'est associé à l'argile, eh bien cette matière organique joue également une espèce de rôle d'éponge, ce qui va permettre de retenir l'eau dans le sol, ce qui va pouvoir permettre de restituer cette eau aux plantes. Et donc même en période de sécheresse, eh bien l'humidité qui est retenue dans ces terres noires permet ainsi d'assurer d'importantes récoltes. Alors le tchernozium, c'est un sol typique des zones sous climat tempéré continental et à l'origine, il est associé à un environnement de prairies, de steppes qui sont boisées ou non. Et la roche mère qui se situe en profondeur, elle est composée de carbonate. Et la végétation qui est caractéristique de ces tchernozomes sauvages possède un système de racines qui va se propager de façon très profonde dans le sol. Ça va permettre ainsi l'enfouissement à grande profondeur de la matière organique. Et cette quantité de matière organique, elle est sans cesse alimentée par les décompositions de ces racines. Donc du coup, ça s'auto-entretient entre guillemets. Les tchernoziums sont donc depuis longtemps reconnus pour leur fertilité. Ils ont ainsi été très tôt, dès le néolithique, transformés en terres arables. Et force est de constater qu'il n'existe plus aujourd'hui que très peu de tchernoziums encore à l'état actuel naturel, recouverts de prairies sauvages. Ça existe de moins en moins. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que on est dans le développement d'une agriculture intensive qui va donc du coup utiliser de plus en plus ces fameux tchernoziums et donc on va un petit peu dénaturer la composition originelle de ces tchernoziums et cette agriculture intensive va entraîner justement une acidification des terres et une décalcification du sol. Bref, un appauvrissement progressif en ressources organiques. Et voilà, ça c'est donc en fait l'agriculture intensive qui a cet impact-là. Et l'Ukraine est donc l'un des derniers territoires à posséder ces tchernoziums, donc ces terres noires très fertiles. Et ça peut être aussi, peut-être aussi, une raison de cette invasion russe, allez savoir. Comme on parle de grenier à blé, à l'époque actuelle, c'est aussi quelque chose d'assez important. On écoute un dernier titre sur l'antenne de Graphite, et puis on se retrouve pour terminer cette émission, parce qu'il est déjà 12h50 sur l'antenne de Graphite. On écoute Carnot sur l'antenne, à tout de suite. Eh bien, ça réveille. C'était Carnot sur l'antenne de Graphite avec Under the Tent. Vous écoutez Biotine tous les samedis entre 12h et 13h. Il est justement 12h54, donc il nous reste peu de temps, mais je voulais juste finir avec ce discours qui a été tenu il y a une quinzaine de jours par Zhu Jianping, qui est l'un des responsables du programme spatial habité chinois. Et il a donc déclaré que la construction de la station spatiale chinoise sera bien terminée d'ici la fin de cette année. Je vous ai dit que de toute façon la décennie 2020 va être formidable d'un point de vue spatial. Et donc là, au niveau chinois, il y a deux modules qui serviront principalement à réaliser des expériences et qui vont pouvoir être envoyés. Et donc la station spatiale chinoise prendra sa configuration définitive en forme de T. Elle devrait fonctionner pendant au moins une dizaine d'années et elle sera dans une altitude comprise à peu près au niveau de 400 km au-dessus de la Terre. Cette station sera composée donc de trois modules, d'un cargo, d'un véhicule de transport d'équipage qui seront tous amarrés en permanence. Et elle ne sera pas aussi volumineuse que la Station Spatiale Internationale qui, elle, compte 16 modules et qui pèse à peu près 450 tonnes. Là, la station spatiale chinoise sera plus petite et elle sera plus légère, une centaine de tonnes seulement, mais elle apparaît suffisamment grande pour répondre aux besoins des Chinois qui ont prévu de l'utiliser pour une très grande variété d'expériences scientifiques et de démonstrations technologiques. Elle pourra accueillir jusqu'à 6 personnes et, si nécessaire, la Chine pourra l'agrandir avec l'ajout de 3 autres modules. Alors concrètement, il y a un module qui va être lancé en juin prochain, le deuxième vers la fin de l'année. Ils vont s'amarrer de part et d'autre d'un nœud de jonction de modules qui avait été lancé l'année dernière. Et donc, la Chine a aussi prévu un télescope spatial de 2 mètres de diamètre qui ne va pas être amarré à la station, mais qui va voler un petit peu dans une configuration orbitale avec la station, mais qui pourra, ce télescope, s'amarrer pour des opérations de maintenance. Et son lancement, lui, est prévu en 2024. Aujourd'hui, la station spatiale chinoise est occupée par un équipage de 3, ce qu'on appelle des taïkonautes, pour les Chinois, ce sont des astronautes chinois, donc des taïkonautes. Ils sont donc 3, dont Wang Yaping, qui est la première chinoise à avoir réalisé une sortie dans l'espace. Cet équipage, qui est l'équipage Shenzhou 13, est arrivé à bord de ce complexe orbital en octobre dernier et va redescendre sur Terre le mois prochain. Il y a 2 autres missions habitées qui sont prévues cette année, donc il y a Shenzhou 14 et l'équipage sera chargé de superviser l'arrivée et le ramarrage des 2 modules qu'on va envoyer cette année, et l'équipage de Shenzhou 15 qui rejoindra la station en fin d'année. Et donc la Chine réalisera sa première rotation d'équipage. 6 taïkonautes chinois se retrouveront ensemble à bord de la station, ce qui est une première pour la Chine d'un point de vue spatial, bien évidemment. Alors cette station spatiale est aussi susceptible d'accueillir des astronautes étrangers. Il y a 2 astronautes de l'Agence spatiale européenne qui s'apprêtent justement à rejoindre, qui ont travaillé et qui se sont entraînés avec leurs homologues chinois. Il y a donc Samantha Cristoforetti et Mathias Maurer, et ils se sont entraînés avec leurs homologues chinois en 2017. Et à l'époque, cette initiative était vue comme un premier pas en vue d'une mission habitée à destination de la station spatiale chinoise qui pourrait donc accueillir des astronautes étrangers. Il y avait même la Russie qui envisageait aussi d'envoyer des cosmonautes sur cette station spatiale chinoise. C'est intéressant parce que du coup la géopolitique s'invite également dans l'espace, parce que va décider la Chine, comment ça va se passer également au niveau de la station spatiale internationale. Je rappelle qu'il y a des Russes, qu'il y a des Américains, qu'il y a des Allemands, qu'il y a des Français, voilà, sont tous dans des configurations un peu étriquées de cette station spatiale internationale. Les Chinois construisent leur propre station spatiale. Est-ce qu'ils vont accueillir des étrangers? Lesquels? Quand? Comment? Sous quelles conditions? Ça va être aussi intéressant de suivre l'aspect géopolitique également dans l'espace. On ne s'en sortira jamais, mais ce sera une décennie géniale, je vous l'ai dit. C'est la fin de cette émission. Nous étions en direct sur l'antenne de Graphite 94.9, sur la bande FM et graphite.net si vous souhaitez récupérer les podcasts de toutes les émissions, dont cette émission, bien sûr. Dans un instant, la suite de vos programmes sur l'antenne de Graphite. On se retrouve samedi prochain, 12h-13h pour une nouvelle émission. Heure d'été, bien évidemment. Donc, prenez soin de vous avec ce changement d'heure et faites attention également avec les conditions sanitaires, parce que c'est pas parce qu'on n'en parle pas que ça n'existe pas. C'est toujours le même adage, bien évidemment. Je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention et à bientôt. Au revoir.